93.6 de retour sur Radio Bulle, ça pétille l'émission entre 6h et 10h du lundi au vendredi. Et vous le savez, avec Jean-Paul Delvaure, depuis le début de la saison, on a décidé de décliner une nouvelle chronique. Ta chronique s'appelle « Faites entrer l'artiste ».«
Faites entrer l'artiste », bonjour Samia, pétillante
bonjour,
Samia.
Bonjour Jean-Paul, même le matin très tôt, t'as vu ?
Oui.
On met de la crème et tout et on est au top.
Mais bien sûr, et en plus il fait beau, c'est le printemps.
Ça fait du bien.
Voilà. Et je suis très heureux de recevoir un artiste que j'ai découvert récemment, que je connaissais un peu de loin comme ça, mais que j'ai vraiment découvert récemment. C'est un artiste protéiforme, un chanteur, un musicien, un compositeur, un producteur, un arrangeur. Il joue de multiples instruments, il est aussi musicothérapeute et il sort un album intitulé « De mon âme à la tienne ». Bonjour Cédric Moulier.
Bonjour, bonjour.
Bonjour voilà. Cédric. Bonjour.
Pardon pour cette longue introduction.
Elle est belle.
C'est parfait.
J'ai essayé de résumer, mais ça va être difficile parce que tu fais plein de choses.
Absolument.
Tu touches à tout.
Ouais.
Et depuis longtemps. Et alors, on va essayer de déjà repartir aux sources. C'est-à-dire que tu es né il y a combien de temps
il y a... Je suis né il y a 42 ans.
Il y a 42 ans.
À Agen.
À Agen.
Oui, tout à fait.
Tu es un pur produit agenais.
Ouais.
Et tu as commencé la musique très tôt.
Très tôt, ouais. Bon, alors j'ai même sûrement commencé dans le ventre de ma mère parce que mon père est fou de musique, donc il écoute la musique à peu près H24. Voilà. Donc je pense que j'ai baigné dans la musique très 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 tôt. Et vraiment concrètement, j'ai commencé à l'école de musique, au conservatoire d'Agen, j'avais 7 ans à peu près. Ouais.
Bravo,
ouais.
C'est beau. C'est beau de rentrer au conservatoire d'Agen.
Ouais, bah ouais.
C'est
ouais.
Un super bel établissement.
C'était vraiment chouette, ouais. Ça m'a permis, ça a été une super base pour moi d'apprendre comme ça, de commencer dans la musique classique avec tout son côté très structurel. Ça a été une vraie force qu'aujourd'hui je mesure vraiment dans tout ce que je fais. Ouais.
Et ils font en plus un super beau travail avec les enfants et on fait vraiment un big up ce matin à Sylvain Martouré qui est le directeur et qui fait vraiment un super travail. Et la preuve, hein, il n'était pas là à l'époque,
mais
on voit bien que ça porte en fait.
Ouais,
hein.
Oui, absolument. Ouais. Moi, ça a été vraiment quelque chose d'hyper important. Et d'ailleurs, mon frère est musicien professionnel aussi et il a commencé lui aussi au conservatoire. Enfin voilà, on est deux produits du conservatoire d'Agen.
On est chanceux.
Et tu as commencé à jouer du
violon alto.
Du violon alto.
Ouais, ouais. J'ai eu un petit violon en plastique à Noël qu'on m'a offert et j'ai trouvé ça super drôle. J'étais à la maternelle et d'ailleurs j'ai fait mes premiers concerts. J'allais dans les classes jouer avec mon violon là, parce que je trouvais ça fascinant. Et j'ai dit à mes parents, je veux faire du violon. Et on a été à l'école de musique. Il n'y avait plus de place en classe de violon, mais on m'a dit, regarde, il y a un truc, c'est pareil, c'est le violon alto. Donc pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, c'est juste un peu plus gros que le violon, hein, un peu plus grave. Et donc je suis allé faire de l'alto, ce qui m'a beaucoup plu. Et je suis très heureux d'ailleurs parce que c'est un instrument qui est un peu plus grave, un peu plus rond, un peu plus chaud comme ça que le violon.
Donc tu as appris le solfège.
Donc là, tout le parcours, ouais, tout à fait, solfège, classe de chant choral, voilà, donc ça a été vraiment le parcours classique général, quoi. Hein,
Et tu es passé à la guitare plus tard ?
Alors un peu plus tard, ouais, assez vite j'ai fait du piano, parce qu'il y avait un piano à la maison,
ouais.
Et puis du coup j'ai dit, ça fait 2 ans que je fais du piano d'autodidacte, j'aimerais bien approfondir, parce que je sentais bien que c'est important d'être accompagné, donc j'ai pris des cours de piano au conservatoire à Agen. Et à ce moment-là, pour moi, c'est un peu ouvert aussi le monde de l'art dans sa généralité, parce que je me suis vite mis aussi vers 10 ans, j'ai fait de la danse classique pendant quelques années.
Exceptionnel. C'est beau quand même qu'un jeune garçon comme ça dise je vais faire de la danse classique et qu'adulte, tu le revendiques.
Ah ouais, j'adore encore la danse, le travail sur le corps et j'adore aller voir ce genre de spectacle. Je ne la pratique plus parce que voilà, mais j'ai fait de la danse classique, jazz, j'ai fait du théâtre pendant des années avec Marianne Valérie.
C'est pas vrai.
Et oui, bien sûr.
C'est rigolo.
Ah, je savais pas ça.
Oui, bien sûr, quand j'étais ado et tout.
C'est magnifique ça, au théâtre du Courneau.
Ouais, au théâtre du Courneau, mais pendant
merde,
longtemps
alors.
J'ai fait ça. Ouais.
C'est beau.
Bien sûr, ça a été hyper important pour ma formation. Ouais. Et il y a eu une étape d'ailleurs quand j'avais 15-16 ans, mes premiers pas sur scène presque, on va dire, professionnels, c'était au théâtre du jour. Ils avaient monté Cyrano de Bergerac, ils avaient fait passer le mot à l'école au conservatoire,
ouais.
Quoi. Et dans Cyrano, il y a des pages musiciens, tu sais, qui préviennent Cyrano quand ils arrivent et tout ça. Et, ils avaient dit, si vous avez des jeunes qui veulent participer, bon, moi, de suite, j'y suis allé, parce que comme déjà, j'étais comme ça. Et donc, j'ai participé à la création de Cyrano, qu'on a joué à Bergerac pour un festival tout un été et tout. J'avais 14 ans, je partais là-bas avec les comédiens et tout. Et j'ai commencé comme ça, ouais.
Et ce qui est bien aussi, je suis désolée, moi, je raccroche toujours les wagons au local, parce qu'on est fiers d'être à Genève.
Oui,
mais il y a toujours cette passerelle entre le conservatoire, Beaux-Arts d'Agen et le nouveau théâtre du jour maintenant. Ouais. Notamment, samedi, il y a eu un samedi, le samedi 28 mars, il y avait un contenu comme ça qui était proposé.
Tu as raison.
Au nouveau théâtre du jour, oui. Avec les élèves
ça
du conservatoire
régulièrement là-bas.
D'Agen.
Oui.
Je me
oui.
souviens parce que mon fils y est allé.
Ah, voilà. Mais moi, j'ai vraiment bénéficié de tous les acteurs culturels locaux. Quoi. Le conservatoire m'a formé. Le théâtre du jour a été vraiment un passage très important. Du Courneau avec les cours de Marianne Valéry, puis des premières parties un peu plus tard, etc. Le Florida aussi, qui a été vraiment un pôle ressource pour mes premiers groupes aussi. On a beaucoup répété, on a joué, ils nous ont beaucoup aidés. Un peu plus loin, à Stafford, dont on reparlera plus tard, mais qui est arrivé plus tard dans ma carrière, mais qui a été aussi un pôle ressource. Enfin voilà, il y a quand même vraiment plein de choses ici qui se font et qui sont vraiment très, très
chouettes. Donc venons-y aux premiers groupes et aux premières compositions. Tes premières activités professionnelles, presque.
Oui, ben absolument. Ouais, ouais, ben, 18 ans, un petit passage éclair en fac de musicologie, parce que bon, ça m'intéressait quand même. Mais finalement, bon, il s'est trouvé que c'était trop théorique pour moi. Et puis, à ce moment-là, donc, mon premier vrai groupe, on va dire, le Manège Grimassin à l'époque, dont j'étais le violoniste, avec Sylvain Reverte, qui officie d'ailleurs toujours.
Ah,
mais
on le connaît
nom.
Bien, nous, ouais, Sylvain Reverte.
Qui chantait, tout, qui avait monté ce groupe déjà. Bien sûr, ah, mais tu voilà, son magnifique.
Mais... Ah, mais il vient nous voir tout le temps. Ouais,
oui, tu avais 18 ans ?
J'avais. Ah, bah ouais, le manège, j'ai dû commencer à 16-17 ans.
Ah ouais, dis donc.
Ouais, ouais, à faire les tournées des bars.
Parce
qu'il
y a eu un album qui est sorti, là. Ouais. Premier détour.
Premier détour, tout à fait. Ouais, je devais avoir 19-20 ans quand on a fait l'album.
Des concerts ?
Beaucoup de concerts. On a fait énormément de concerts avec le manège.
Tu jouais, toi ?
Moi, je jouais violon à l'époque.
Encore
violon et
violon.
Clavier. Violon et clavier.
D'accord.
Voilà. À l'époque, quand l'album a été produit, bon, là, on a eu une assez grosse tournée. On est monté à Paris, on a fait beaucoup de choses. Et donc, ça a été un peu le départ vraiment de ma vie. Mon premier cachet d'intermittent, ça a été avec le Manège Grimassin à l'époque, là-bas, à Montauban. On avait joué. C'est mon premier cachet. Je l'ai gardé, le truc.
Ah, c'est trop mignon.
C'est parti comme ça. Ouais. Ouais.
Et donc, alors, on va passer un peu vite parce que là, il y a un album qui sort.
Ouais, tout à fait.
Et que tu as mis du temps à composer et à accoucher, si je puis dire.
Ouais.
Raconte-nous un peu la genèse et le pourquoi du comment.
Alors en fait, moi, il y a eu cet épisode du Manège Grimassin avec.
Tu vas nous laisser un petit peu, tu vas nous en laisser un petit peu pour la fin des chroniques aussi, hein, d'accord ?
Donc je suis arrivé en 2011 à peu près, j'ai sorti mon premier album solo, Eléasie.
Oui.
Ça c'est important.
Alors voilà. Ne passons pas là-dessus.
Parce que voilà, jusque-là j'avais vraiment travaillé avec plein d'artistes, le Manège, Grim, bon bla. Et c'était la première fois où moi je m'étais mis à écrire, c'est vraiment à part 2-3 chansons d'amour quand j'avais 15 ans, mais bon, rien de bien d'important. Et là, je me suis mis à écrire vraiment avec Eléasie en 2010 à peu près. J'ai sorti l'album en 2011. Ça a été
tout seul,
ouais,
comme un grand.
Tout seul,
là,
tout à fait.
Voilà.
Absolument. J'avais déjà mis en place mon studio. Enfin, je commençais tout juste à mettre mon propre studio en route à ce moment-là. Donc, j'ai réalisé, produit tout l'album, qui est un album assez aussi conséquent. J'avais beaucoup écrit. Il y a beaucoup de textes. J'avais travaillé avec un artiste aussi, d'ailleurs, local exceptionnel, qui s'appelle Rémi Boiron, à cette époque-là,
oui.
Qui avait donné voix à l'arbre, en fait. Puisque, pour résumer rapidement, cet album parle de ma rencontre avec un arbre, un chêne, qui s'appelait Eléasie, qui m'a transmis sa sagesse d'arbre et qui m'invitait à faire un parcours intérieur initiatique et de découvrir l'arbre en moi, donc de découvrir le cèdre qui était en moi, m'appelant Cédric.
Tu l'as trouvé où, cet arbre?
Il était chez mes parents.
Fait longtemps que vous vous connaissez.
Ah ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît.
Et un jour, il a décidé de te dire comment il s'appelait.
Ouais, parce qu'un jour, j'étais en tournée, je repassais rapidement chez mes parents, et là, je vois qu'il y a des gars qui tournent autour de l'arbre et je dis à mes parents, mais qu'est-ce que vous faites? Et eh bien, en fait, il faisait couper l'arbre. Et donc, ça m'a fait un choc, cet arbre magnifique. Et je suis allé dire au revoir à l'arbre. Et bon, c'est difficile à dire avec des mots. C'est pour ça que j'en ai fait un disque, d'ailleurs. Il s'est passé un truc à ce moment-là très, très, très fort, très puissant.
Mais tu veux dire que l'arbre est mort ?
Complètement bouleversé. Alors, l'arbre n'est pas mort, mais ils l'ont coupé. Non, mais c'est incroyable.
Ah, d'accord.
Ils ont coupé l'arbre, mais au ras. Hein,
ouais.
Un chêne qui avait peut-être 50 ans, immense.
Mais pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Parce qu'il était vraiment, c'est vrai, très près de la maison.
D'accord.
Donc ça gênait,
ça dangereux.
Les branches, c'était un peu dangereux et tout ça. Ils ont coupé au ras, mais un arbre, en fait, même en le coupant au ras, il a une vie dans ses racines qui est telle que s'il est en bonne forme, il repart. Donc aujourd'hui, il fait 7 ou 8 mètres de haut, en fait.
C'est
il est reparti.
Il est reparti
du sol, toute petite, comme ça, et là, ils l'ont pas recoupé encore, parce qu'il gêne pas trop, mais voilà.
D'accord.
Donc il est encore vivant. Mais en tout cas, il y a eu ce choc-là qui fait que j'ai écrit ce premier album.
C'est comme quand tu te coupes les ongles, Jean-Paul.
Ça repousse.
Ça repousse, tu vois. Ouais. C'est pareil. Bon, j'ai un peu digressé parce qu'on parlait de Mon âme à la tienne, mais pour dire qu'en fait, j'ai écrit ce premier album qui a été très, très, très prolifique en termes de texte. Et là, j'ai passé 10 ans sans écrire. À part.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que je sais pas. Parce qu'en fait, je commence à savoir que, en fait, moi, pour écrire des choses comme ça, intimes et personnelles, je parle pas des chansons que je peux faire, par exemple, pour du jeune public, parce que j'ai sorti entre-temps un album de chansons pour enfants, pas tout à fait la même implication intérieure, il y a un truc qui se joue qui est différent. Bon, bref, et moi, pour que j'écrive, en fait, des choses comme ça, intimes et personnelles, il faut que je sois dans un état mental pas très équilibré. Okay. Il faut que je vive quelque chose qui me déconstruise et me déstabilise pour que mes protections s'abaissent et que je sois complètement perméable au monde. Mais c'est pas très confortable. Heureusement, ça m'arrive à peu près tous les 10 ans, donc j'ai remarqué ça.
Ça s'appelle l'inspiration.
Peut-être c'est l'inspiration. Alors,
tu as besoin d'un accident ou du
ouais, d'un truc du de chaos. La vie, d'un chaos. C'est, mais bon, je pense que je suis pas le seul, peut-être, artiste à fonctionner comme ça. Hein, mais alors, je le recherche pas, du coup.
Ouais, d'un déséquilibre qui arrive comme ça où tu te sens un peu tangué.
Ouais. Okay. Alors, et ce qui se passe aussi, peut-être, c'est que quand il arrive, je le repousse pas, quoi. Je l'accueille, je l'accepte et je me laisse complètement fondre dans ce truc-là. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait l'Asie. Et quand 10 ans plus tard, je me suis mis à écrire De mon âme à la tienne, à plusieurs événements qui sont rentrés dans ma vie et qui ont...
Moi, j'envie les artistes parce qu'on passe tous des étapes dans une vie. On commence à prendre de l'âge et on se rend compte, on a le recul. Et les artistes, en fait, ils ont cette ressource de pouvoir non pas prendre le rendez-vous chez le psy, hein, et chez le thérapeute, mais de se faire sa propre thérapie. Et je trouve ça hyper... j'aime bien ce qu'on entend ce matin, ça fait du bien. Mmh. Et en plus, ils aident les autres aussi à travers ce qu'ils vont produire. Et peut-être essayer aussi de se reconnecter.
Ouais, ouais, il y a un travail comme ça de transmutation de ce truc qui d'ailleurs m'a amené aussi, pareil, on en reparlera, à la musicothérapie et tout ça. Et du coup, j'ai vraiment pris conscience de cette puissance de la créativité qui n'est pas forcément nécessairement destinée à être belle ou jolie ou partagée ou quoi, mais qu'on peut tous vivre à plein d'étapes et de moments de notre vie. Et quand on arrive à créer à partir de ce chaos-là, c'est hyper puissant. C'est Nietzsche qui disait ça, à partir de notre chaos, de créer une étoile qui danse. Et c'est vraiment de pouvoir transfigurer ces choses-là. Et quand on le vit de l'intérieur, c'est très puissant. Ouais.
Ce qu'on n'a quand même pas dit sur cette première partie, c'est qu'il y a de grands noms qui t'ont accompagné et qui t'ont permis de prendre aussi un élan dans un certain confort pour les artistes. Il faut leur rendre aussi, parce qu'on a de la chance en Lot-et-Garonne là-dessus, d'avoir l'association Voix du Sud, d'avoir Francis Cabrel qui suit beaucoup les artistes. Ouais. On lui fait un clin d'œil, il était passé par Radio Bulle il y a quelques temps et on le sent toujours impliqué. Et ça, il y a aussi Michel Françoise, on peut en parler.
Oui, absolument. Ah ben, c'est vraiment des gens qui ont été hyper, hyper importants pour moi. À l'époque, le Manège Grimaçant, produit par Francis Cabrel et Michel Françoise. Donc, ils ont lancé tous les deux un label pour accompagner les jeunes artistes, pour continuer un peu le travail que Francis a mis en place avec Voix du Sud, justement, d'accompagner les artistes émergents, leur donner un espace de rencontre et de création. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, ils ont accompagné la création de mes premiers groupes et ils ont toujours été là, et Francis il a toujours été là quand j'ai créé mon premier studio dans un garage, le premier album que j'ai fait 88 avec un artiste que j'avais rencontré à Voix du Sud quand j'avais fait les stages. On partait à Stafford et Francis il me disait vas-y prends cette gratte, prends celle-là, vous allez enregistrer avec, tu vas voir ça va le faire, c'est super. Et puis voilà, et ils ont vraiment été c'est des gens qui ont été hyper, hyper ressources pour moi et qui le sont encore aujourd'hui puisque j'ai retrouvé Michel après 10 ans sur la réalisation de mon dernier album.
Et à un moment donné, donc, tu décides de partir de la fac de musicologie et tu as quand même un sacré, la chance d'avoir tes parents qui te suivent à ce moment-là.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment une chance que je mesure de plus en plus en prenant aussi de l'âge, de voir la confiance que mes parents ils ont en la vie et en tout ça. Ils ont toujours réussi à nous élever, mes parents, en nous accompagnant et en nous enveloppant comme ça d'une sécurité et justement, peut-être aussi par rapport, grâce à ça, en nous laissant une liberté folle et en nous laissant faire les erreurs, en nous laissant nous prendre des murs, etc. Et c'est comme ça qu'on a appris. Et effectivement, j'étais à la fac, je tournais un peu en rond parce que je n'arrivais pas à faire autant de musique que je voulais. Et je me rappelle de ce coup de fil un soir où mes parents me disent « Écoute, la fac, c'est sympa, mais on n'est pas sûr que ça soit ton espace. » toi, t'es un artiste, il faut que tu fonces, fais de la musique, fais du théâtre, du cinéma, on s'en fout, fais ce que tu veux, tu vas être bon là-dedans, tu vois, et c'est vrai,
non,
ça fait gagner un temps fou. Hein.
Non, mais tu te rends compte quand même, parce que les parents, en général, quand tu leur dis que je vais devenir, ils vont dire, c'est pas un métier artiste.
Exactement.
Enfin, et au final...
Surtout qu'ils viennent pas trop de ce milieu-là, eux, hein, ils sont mélomanes, mais ils m'ont vachement lancé là-dedans, ils m'ont dit, fonce, on va t'accompagner, ça va le faire et tout. Donc là, tu gagnes un temps précieux, hein, quand t'as cet accélérateur. Ouais.
Ouais, et ils te disent, va vivre ta vie d'artiste.
Exactement.
Donc Cédric, on en parle beaucoup là de cet album, mais si on écoutait un titre.
Ah, mais avec joie. Hein,
donc on a choisi d'écouter À ceux qui sèment, sèment du verbe semer. Il y a un clip d'ailleurs qu'on peut visionner sur YouTube, entre autres.
Ouais.
Un clip où danse une jeune élève du nouveau théâtre du jour de l'école de théâtre humaniste Grégory Baquet, Lilou.
Exactement.
On lui a fait un petit coucou parce que...
Ouais. C'était magique, hein, deux mots. On a tourné le clip, on a eu la chance que Grégory et ses équipes nous mettent à disposition le lieu qui est magnifique. Et avec mon réalisateur du clip, Cyril Virelode, que je salue, on est parti tourner sans trop savoir ce qu'on allait faire parce qu'on aime bien aussi improviser et tout ça. Et à ce moment-là, pendant la journée, Marion, qui travaille au théâtre, qui m'aide beaucoup, qui m'accompagne, me dit « Il y a cette jeune-là que j'ai déjà vue danser qui est à l'école ». Tu devrais lui demander si elle veut pas danser sur ta musique.
C'est
franchement.
Super.
Et ça s'est fait comme ça. Je suis allé voir Lilou. Ah ben ouais, tac. Elle a dit oui. Elle a écouté le morceau deux fois. Elle est venue sur scène. On a mis les caméras. On a fait deux prises complètement improvisées. Et elle a complètement transfiguré complètement le clip. Tant et si bien qu'elle est devenue l'égérie du projet. Parce qu'en fait, c'est elle qu'on voit en photo sur la pochette de l'album aujourd'hui.
Le clip est magnifique.
Oui.
Allez le voir sur YouTube. Et le titre aussi est super et vous l'écoutez, vous l'entendez maintenant sur le 93.6, Cédric Moulier, À ceux qui sèment.